IA, intelligence artificielle. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche en ce moment.
C'est normal, c'est quand même hallucinant de pouvoir parler avec un robot.
Et Guy a répondu à tout. On a vraiment l'impression d'avoir une discussion, comme si c'était un humain.
Oui, c'est vrai, mais je crois que ça me fait peur.
C'est vrai, il faut faire attention. On a l'impression qu'il sait tout, mais il peut se tromper des fois.
En tout cas, il m'avance bien. Je ne m'embête plus à aller sur Google pour chercher une information.
Je crois que nous devons creuser un petit peu plus sur les IA conversationnelles. C'est une grande avancée technologique. On n'aurait jamais imaginé discuter avec un robot il y a encore 20 ans. Mais ce n'est qu'un robot. Faut nous renseigner sur comment ça fonctionne.
C'est bientôt le festival Longueur d'onde à Brest et il y a des journalistes spécialisés dans l'ère du numérique. Ce serait peut-être l'occasion d'en savoir plus sur l'IA.
Les 4e 3e de l'option classe actu du collège Sainte-Anne à Brest, pour enquête en classe, essaient de répondre à la question.
IA générative et conversationnelle. Les robots capables de dialoguer avec les humains représentent-ils un progrès ou une menace dans la manière de s'informer?
Nous sommes allés à la rencontre de Steven Jambot, journaliste et producteur de l'émission L'Atelier des médias sur RFI.
Dans un recoin des ateliers des Capucins, nous avons eu la chance de discuter quelques minutes avec Xavier Delaporte, journaliste et producteur de l'émission Le Code a changé sur France Inter.
Nous avons également assisté au webinaire organisé par France Info et Bayard Jeunesse, intitulé « Comment utiliser l'IA intelligemment ?».
C'est parti dans cette grande abysse qu'est l'IA conversationnelle.
Avant toute chose, définissons le terme d'IA conversationnelle.
Écoutons la définition que propose Steven Jambot.
En gros, ce sont des immenses machines, des serveurs qui moulinent des contenus, qui vont mâcher ces contenus pour créer quelque chose. Ces machines ont pillé des données existantes, publiques. Donc en gros, vous avez des géants du web qui sont allés piocher tout ce qui était disponible partout. Par exemple, tout YouTube a été pillé. Tout ce qui est disponible, ce que les médias publient sur Internet, pas caché derrière un paywall, derrière une dimension payante, a été pillé par ces intelligences artificielles qui ensuite les remâchent pour nous diffuser quelque chose ou pour rendre, régurgiter même quelque chose aux humains que nous sommes.
Les IA récupèrent des informations de tout le web et on sait bien qu'il y a plein de fausses informations qui circulent sur le web.
C'est plus difficile de savoir si ce que dit l'IA est vrai ou faux.
Tu te souviens, Steven Jambot nous a mis en garde. Les textes écrits par l'IA sont de bonne qualité, belle syntaxe, pas de faute d'orthographe.
Mais l'information n'est pas forcément vraie.
Et ce n'est pas tout. Si tu lui poses une question et qu'elle ne connaît pas la réponse, elle va inventer.
On appelle ça les hallucinations de l'IA.
Elle préfère inventer des réponses plutôt que de dire qu'elle ne connaît pas la réponse.
Comment Steven Jambot a défini toute cette masse de désinformation sur le web?
Alors la boue d'IA, c'est le fait que les intelligences artificielles génératives, elles se servent de contenus existants pour les remâcher et régurgiter quelque chose d'autre. Il y a plein de choses qui génèrent du bruit. C'est très facile maintenant avec l'IA de créer un faux site sur des fausses informations et de faire que ces contenus-là soient référencés sur Internet. Et que des gens prennent ces contenus-là pour des contenus réels, vérifiés, sourcés. Ça a l'air du vrai, ça a l'air d'être un contenu média de qualité, mais c'est tout sauf ça. C'est de la pure et simple désinformation. Et ces contenus-là, ils sont en train de pourrir Internet, de pourrir les réseaux sociaux, de pourrir notre monde, en fait, parce que c'est des contenus de très basse qualité qui sont créés et qui font un bruit mémorable. Et le problème, c'est que ce bruit-là et ces contenus nuls qui sont créés, après, nourrissent à nouveau des IA. Là-dessus, encore une fois, c'est comment est-ce que dans tout ce bruit, des contenus d'information peuvent réussir à se frayer un chemin? Pour l'instant, on n'a pas trop la réponse.
Ah oui, la boue d'IA, c'est vrai.
C'est un vrai problème. Avec tous ces contenus faux ou médiocres, c'est difficile de trouver la bonne information, la vraie info.
C'est vraiment un enjeu démocratique, toute cette diffusion massive de désinformation.
En plus, il est très facile de créer et de diffuser des fausses informations grâce à l'IA.
Steven Jambot nous a expliqué que des puissances étrangères fabriquent de la désinformation à haute dose grâce à l'IA dans le but de créer du désordre en France et de déstabiliser le pays.
Oui, c'est facile de faire ça. En plus, il est toujours un peu compliqué de connaître la source des informations proposées par l'IA.
C'est vrai ça. Qui me parle quand je communique avec une IA?
Eh bien, c'est un peu tout le monde. L'IA se nourrit de tous les contenus trouvés sur le web.
Pas vraiment tout le monde. Rappelez-vous ce que nous a dit Steven Jambot.
Les biais de la société par l'IA, ben c'est un petit peu ce que je vous racontais tout à l'heure, les IA se nourrissent de l'existant. Donc si vous avez un web qui a été pensé par les pays occidentaux sur des bases de contenus existants ultra majoritairement en anglais, rédigés par tel et tel profil socio-économique de personnes, forcément vous allez avoir des biais de reproduction basés sur ce qu'on aura donné à cette IA. En plus, les IA sont des boîtes noires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur, en gros. C'est juste c'est du pur et simple calcul qu'il y a dans ces machines, mais on ne vous dit pas quelles sont les commandes que les concepteurs de ces outils ont données à leurs outils. Donc très vite, les premières IA qu'on a vues apparaître, elles commençaient à avoir des propos sexistes, des propos racistes, homophobes, antisémites, etc., etc., etc.
L'autre jour, j'ai demandé à une IA de me générer une image du PDG d'une entreprise pour mon exposé. Il m'a généré une image d'un homme blanc d'une cinquantaine d'années.
Oui, j'ai déjà remarqué ça. L'IA a une vision très occidentale du monde et qui reprend les biais de notre société.
Oui, et aussi, elle est beaucoup plus entraînée par des hommes que par des femmes, car dans le métier de la tech, les femmes sont moins présentes.
Mais pas seulement, le racisme est très présent aussi, puisque les IA sont majoritairement occidentales et les personnes africaines peu représentées.
En fait, la réponse à la question « qui me parle quand j'interroge une IA ?», c'est son constructeur. C'est lui qui décide des réponses en créant ses algorithmes.
La pire des IA est celle d'Elon Musk et de son réseau social X Grok. Il n'y a aucune modération. Ce n'est pas seulement une reproduction des inégalités, mais on trouve beaucoup plus de contenu à caractère pornographique, agressif et qui propose une vision très antidémocratique et raciste.
Attendez, à vous écouter, l'IA est la pire invention de l'humanité. Elle est raciste, sexiste et ne produit que des faux contenus sans intérêt pour nous rendre encore plus idiots et pour déstabiliser les démocraties. Pourquoi alors les gouvernements n'interdisent pas toutes les IA ?
C'est vrai que nous avons dressé une image un peu sombre. Les IA peuvent être bien utiles.
J'aime beaucoup l'expression utilisée par Xavier Delaporte pour qualifier l'IA, un pharmacon.
Il y a un philosophe de la technique qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est mort il y a quelques années, comme ça, qui reprenait un vieux mot, un mot qu'on trouve dans la philosophie grecque, qui est le mot de pharmakon. Parce que pharmakon, qui a donné pharmacie en français, pharmakon, c'est un mot grec qui désigne à la fois le poison et le médicament. Et en fait, la technologie, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un pharmakon, ça peut être à la fois une solution et un problème. Donc en fait, il faut être suspicieux vis-à-vis de tous les gens qui vous disent la technologie résoudra tous nos problèmes, tous les problèmes de l'humanité. Ça, c'est en gros les gens de la Silicon Valley, tous les gens qui vendent de la technologie, les Google, les Meta qui font Facebook et machin, ça, qui vous disent on va résoudre tous les problèmes de l'humanité grâce à la technologie. Voilà. Ceux-là, il ne faut pas les écouter parce qu'ils sont du côté genre la technologie, c'est le remède. Voilà. Il ne faut pas écouter non plus les gens qui vous disent « Oh là là, le smartphone, c'est l'enfer, l'IA, ce ne sera que la perte de l'humanité, plus personne n'écrira, plus personne ne fera ça, machin, etc. » Tous ceux qui vous disent que ça n'est que horrible. Parce que, en fait, c'est les deux en même temps. Et qu'est-ce qui va décider de si ce sera bien ou pas ? Ben, c'est à la fois nous, les usagers, dans nos usages personnels. C'est votre smartphone, ça peut être un super outil pour plein de trucs, mais si vous passez votre journée dessus, vous donnez... débile et vous n'avez plus lien. Voilà. Et c'est aussi les gens qui les fabriquent, les ingénieurs qui les fabriquent, c'est les gens qui les vendent, c'est les hommes et les femmes politiques qui les régulent. C'est quoi ? Il y a des lois, on peut décider que dans l'IA, il y a des trucs qui peuvent être dites et d'autres pas. On peut décider de faire fermer des services informatiques, enfin des services numériques. On peut, voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas... La technologie en elle-même, elle peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais c'est tout le reste des humains qui l'utilisent, la fabriquent, la légifèrent, y réfléchissent, etc., qui décident de si c'est, au final, ça sert l'humanité ou pas.
Steven Jambot et Xavier Delaporte nous ont mis en garde sur les effets négatifs de l'IA, mais ils ont dit également qu'ils l'utilisaient quasi quotidiennement.
Alors qu'ils sont journalistes, ils savent ce que c'est d'informer la population et de lutter contre toutes sortes de fake news.
Ils en font un usage intelligent. Par exemple, Xavier Delaporte l'utilise dans son travail d'écriture « Trouver un titre ».
Steven Jambot l'utilise aussi quotidiennement. Il récupère toutes les informations de son invité et demande à l'IA de lui définir les mots-clés ou de lui préciser les notions qui lui reviennent le plus.
C'est surtout un gain de temps pour tous les deux. Steven Jambot demande à l'IA de rédiger une page d'édition pour accompagner la mise en ligne de son émission afin d'optimiser les résultats dans les moteurs de recherche et dans les IA.
Steven Jambot a cependant précisé qu'il portait toujours un regard sur ce qu'écrit l'IA.
Il a écrit aussi la proposition de l'IA.
Et il va vérifier les informations proposées en les croisant avec d'autres sources.
Comme il le dit lui-même, il est journaliste et doit respecter la charte d'utilisation de l'IA dans les médias.
Les journalistes n'ont pas le droit éthiquement et déontologiquement de publier des contenus rédigés par l'IA sans une relecture et une validation par un humain de ces contenus.
Il y a quand même une différence entre le métier de journaliste et l'IA conversationnelle.
Comme l'a dit Xavier Delaporte, les IA peuvent être un gain de temps, mais ne remplaceront pas les principales missions du journaliste.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'autres choses qu'une IA ne peut pas faire. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas envoyer une IA en reportage. On peut faire générer un reportage par une IA, mais à partir de quoi elle fera générer, ce sera n'importe quoi, puis bon, voilà. Mais bon, faire du reportage, une IA ne peut pas le faire. Faire une vraie interview d'une personne réelle, etc., une IA ne peut pas le faire. Avoir un avis politique, donner une sorte d'analyse politique, elle peut faire une analyse politique moyenne, mais disons, voilà, elle ne peut pas faire... Donc, en fait, si pour répondre à votre question, il y a peut-être une part de mon travail qui n'est plus utile de faire ou qu'on peut faire par une machine, mais il y a toute une autre partie de mon travail qui est peut-être la plus intéressante, en plus, depuis toujours, ben, qu'une machine ne peut pas encore faire et sans doute qu'elle ne pourra jamais faire.
Comment on s'y retrouve dans tout cela ?
Comme pour tout ce que tu dis sur le web, il faut faire preuve d'esprit critique.
Il faut l'utiliser à bon escient.
Il faut se poser des questions et vérifier si l'information proposée est vraie
en croisant ses sources.
C'est un peu comme toute nouvelle technologie. Au début, elle fait un peu peur et on ne voit que les côtés négatifs.
Mais il ne faut pas oublier que les IA, même si elles nous parlent, répondent à nos questions, paraissent avoir de l'empathie pour nous. Ce ne sont que des robots.
Et que derrière ces robots, il y a toujours des humains.
Faisons confiance à l'homme pour créer des IA respectueuses des autres.
Et pour avoir un usage respectueux des IA.
Laissons Steven Jambot conclure sur un bon usage des IA conversationnelles.
J'ai envie de dire, essayez, bidouillez. Essayez tous les outils qui existent là, d'intelligence artificielle pour voir ce que ça fait, tout simplement. Parce que vous ne pouvez pas dire... ça n'existe pas, je ne veux pas entendre parler. Non, il faut l'utiliser. Mais après, il faut aussi se poser la question des impacts de ce que l'on fait. Et puis aussi, apprenez à écouter. Écouter et faire la différence entre ce qui est de l'ordre du bruit, de ce qui est de l'ordre de l'information. Allez vers les autres et n'ayez pas peur.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par
Achille,
Agathe,
Augustin
et Léa,
Fantine,
Lali,
Lucie
et Rose,
élèves de l'option classe actu
du collège Sainte-Anne à Brest.
Un grand merci à Steven Jambot
et à Xavier Delaporte
d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.